Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le lundi 13 décembre et on va s'informer à toute vapeur.
Vous nous emmenez donc sur les rails ce matin, Julien.
Pour un événement historique, pour la première fois depuis 1938, une autre compagnie que la SNCF va transporter des passagers en France. Il s'agit de l'entreprise italienne Trenitalia, qui va lancer samedi ses premiers trains grande vitesse, et là où ça fait le plus mal.
Paris-Lyon, la ligne est la plus fréquentée, c'est la plus rentable.
La SNCF est-elle suffisamment armée pour faire face à ce nouvel acteur, au train flambant neuf et aux tarifs attractifs? La concurrence va-t-elle être bénéfique pour les usagers? On en parle à 6h10 avec Michel Savy, grand spécialiste des transports.
Dans le reste de l'actu, Julien.
Le terrible bilan du passage de plusieurs tornades aux États-Unis. Nous irons sur place. Nous serons également en Nouvelle-Calédonie après le non à l'indépendance, après le troisième et dernier référendum. Et puis on se souvient tous de cette publicité.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
Parce que ça fait vendre, le méchant plaît. Une enquête d'opinion avait même été commandée par cette célèbre marque de soda. Elle révélait qu'un Français sur deux estimait que le méchant était plus intéressant que le gentil au cinéma. Le Joker, Tati Daniel, Glenn Close en Cruella d'Enfer dans les 101 Dalmatiens, Dark Vador, le méchant rédempteur, ou Cersei Lannister, machiavélique brillante dans la série Game of Thrones.
Des méchants qui crèvent l'écran, mais certains sont aussi très attachants car ils sont moqueurs et caustiques.
Ouais, ils sont même nécessaires lorsqu'ils sont caricaturistes et drôles. Tout un livre leur est consacré, carrément méchant, avec en sous-titre « Parce qu'il fallait aimer que les gentils, nous serons morts d'ennui ». On sera avec son éditrice au Cherche Midi à 6h moins le quart.
Enfin, on terminera avec votre partition, Blin.
Avec un chef-d'œuvre de rock et de blues. L'unique album du groupe d'Eric Clapton, Derek and the Dominos, avec sa pochette au centre d'un démêlé judiciaire en France. La partition à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Pour la météo, comment s'annonce ce lundi ?
Eh bien calme, beaucoup plus calme que la semaine que nous venons de passer, qui a quand même été très agitée, en particulier dans le sud-ouest. Alors on a un temps très classique aujourd'hui. Vous prenez une carte de France, vous tirez un trait au niveau de la Loire, au nord nous avons des nuages et au sud c'est très ensoleillé. On a vraiment un temps classique pour la météo. Alors ce matin sur la moitié sud, restez prudents, en particulier dans le sud-ouest. Sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, on a quelques brouillards, donc prudence sur les routes. Après la dissipation de ces brouillards, c'est quand même le soleil qui domine au sud de la Loire. On a un temps sans vent, sans pluie, vraiment ensoleillé jusqu'en Corse. En revanche, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes restent toujours en vigilance orange crue. On n'a plus de pluie, mais la décrue est lente dans ce secteur, donc courage et surtout prudence. Au nord de la Loire, sur les Pays de la Loire, le Lyonnais, la Bourgogne-Franche-Comté, ce matin on a des brouillards. Et puis cet après-midi, on aura un ciel qui va rester très gris sur toute la moitié nord du pays. Moins 5 à Chambéry, moins 3 à Manosque, qui fait froid. Moins 2 à Rodez, moins 1 à Clermont-Ferrand et Belfort, 0 à Marseille. 4 degrés à Nice ce matin, 6 à La Rochelle, 8 à Paris et Lille. Il fait plus doux sous les nuages forcément. 9 degrés du côté de Biarritz et cet après-midi comptez 3 à 18 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Fait partie des chanceux, on n'a plus rien, mais on est en vie.
L'Amérique toujours sous le choc ce matin. Scène d'apocalypse dans le Kentucky après le passage de tornades samedi. Le dernier bilan encore provisoire fait état de 94 morts. Nous serons à Mayfield, ville rayée de la carte, avec notre envoyé spécial. La Nouvelle-Calédonie reste française, mais c'est le début d'une période de transition après le référendum sur l'indépendance rejeté à plus de 96%. Nous prendrons la direction de Nouméa dans ce journal. Et puis en Formule 1, Max Verstappen, stratosphérique. Le Néerlandais détrône le septuple tenant du titre, Lewis Hamilton, et devient champion du monde de Formule 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce lundi vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Des scènes apocalyptiques, des maisons rasées, des arbres arrachés. Terrible bilan aux États-Unis. Au moins 94 morts dans 5 États après le passage de tornades samedi. C'est dans le Kentucky que les dégâts sont les plus importants. La ville de Mayfield n'est plus qu'un champ de ruines. Les opérations de recherche et de déblayage se poursuivent. Sur place, les secouristes espèrent un miracle. Le reportage d'Alexis Guilleux, notre envoyé spécial à Mayfield.
Au milieu du balai des pelleteuses, Andrew passe de maison en maison À la tête d'une équipe de secouristes, il s'assure que personne n'est laissé à l'abandon.
Avec le soleil qui se couche, le plus important, c'est d'avoir trouvé tous les blessés et que toutes les personnes sans abri soient au chaud. On ne veut pas de victimes supplémentaires à cause de l'hypothermie.
Aidé par un groupe d'adolescents bénévoles, Britney achève deux journées éreintantes. Vendredi soir, toutes ses fenêtres ont explosé sous la puissance de la tornade.
Une grande partie de nos affaires étaient trempées et ont gelé à cause des températures. Notre priorité, c'était de sauver l'essentiel. On a deux enfants, je suis enceinte du troisième, donc on a récupéré pas mal de choses pour le bébé.
Britney reviendra tout à l'heure continuer son tri. Pour d'autres, la tâche s'annonce immense. Un tas de gravats, c'est tout ce qu'il reste de la boutique de Marty dans le centre de Mayfield.
Je suis en état de choc. Je n'arrive pas à y croire, tous ces dégâts. Et on fait partie des chanceux, on n'a plus rien, mais on est en vie.
Le commerçant a déjà mis la main sur ses documents les plus importants. Il promet de reconstruire pour rouvrir dès que possible. Mayfield, Alexis Guilleux, Europe 1.
La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Déclaration d'Emmanuel Macron après la victoire écrasante du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
À plus de 96% des voix. Mais le scrutin a été largement boudé par les Kanaks avec seulement 43,9% de participation. Caroline Baudry, vous êtes notre envoyée spéciale en Nouvelle-Calédonie. Avec le référendum, c'est la fin des accords de Nouméa et donc c'est le début d'une période de transition pour trouver un nouveau statut.
Oui, c'est une étonnante forme de vide juridique dans lequel il faut tout inventer. D'abord, repenser les institutions locales alors que l'archipel a aujourd'hui son propre gouvernement et un congrès qui vote les lois, effacer des dérogations qu'avait la Nouvelle-Calédonie jusqu'à présent, terminer par exemple l'exclusion des listes électorales locales des 35 000 citoyens installés ici récemment, un élément plutôt incompatible avec la constitution française qu'il faudra aussi réviser pour y définir la future Nouvelle-Calédonie. On sait déjà qu'elle garde sa forte autonomie. La France a légué des compétences comme la santé. Ce mécanisme est irréversible. Seuls obstacles à l'inventivité, les incontournables d'un territoire dans les frontières de la France. Elle continuera d'y assurer la justice, la monnaie et les forces armées tricolores ne quittent pas l'île. Pour le reste, on se mettra d'accord entre l'État, le Parlement et les forces politiques locales. Le tout soumis par référendum, encore une fois, d'ici juin 2023.
Merci Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie. Et j'ajoute que certains indépendantistes refusent d'entamer les discussions avant la présidentielle. Le ministre des Outre-mer en visite sur place prend acte de cette décision.
Au Vatican, déplacement aujourd'hui d'une délégation de la Conférence des évêques de France. Elle rencontre le pape. Ils feront ensemble un point sur l'Église catholique de France et en particulier sur le rapport de la Commission Sauvé.
À 4 mois maintenant de la présidentielle, la campagne commence enfin du côté des Républicains.
Oui, hein, Valérie Pécresse est dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, rendez-vous à Calais puis Boulogne-sur-Mer. Rencontre prévue avec les policiers, mais aussi les marins-pêcheurs. Après une semaine consacrée au rassemblement au sein de son parti, Alexandre Chauveau, ça y est, c'est le premier vrai déplacement de campagne pour la candidate.
Oui, Valérie Pécresse veut désormais aller à la rencontre de tous les Français et montrer qu'elle a des réponses aux problèmes du quotidien. « Je serai la présidente des solutions », dit-elle. Elle sera donc dans les Hauts-de-France aujourd'hui, aux côtés de Xavier Bertrand, et rencontrera la maire de Calais, Natacha Bouchard, pour aborder la question des migrants. Valérie Pécresse compte profiter autant que possible du maillage territorial important des Républicains. Elle a d'ailleurs demandé la semaine dernière à tous les députés LR de lui proposer des déplacements sur des thématiques précises. Elle participera ainsi cet après-midi à une table ronde avec les représentants des pêcheurs à Boulogne-sur-Mer, alors que le Royaume-Uni n'a délivré ce week-end que 23 nouvelles licences de pêche sur les 104 réclamées par Paris. La candidate souhaite multiplier les déplacements d'ici la fin de l'année. Elle sera jeudi à Provins, fief de Christian Jacob, puis à Troyes le même jour chez François Baroin, cette fois pour parler ruralité et vie associative, celle qui bénéficie d'une dynamique depuis sa désignation au Congrès des Républicains et qui devient peu à peu une cible pour les autres candidats, entend maintenir le rythme pour attaquer le mois de janvier en ayant conservé sa bonne position dans les sondages.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et Éric Ciotti, finaliste perdant du Congrès LR, a appelé hier les électeurs d'Éric Zemmour à voter pour Valérie Pécresse à la présidentielle. Seule solution, selon lui, pour battre Emmanuel Macron.
La guerre du rail est déclarée.
Oui, un an après l'ouverture à la concurrence du marché de la grande vitesse, Trenitalia propose à la vente dès 9h ce matin des billets pour la ligne Paris-Milan avec des arrêts à Lyon, Chambéry, Modane et Turin. Premier départ prévu samedi avec 2 allers-retours par jour. Pour Roberto Rinaudo, PDG de Trenitalia France, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde.
avec une offre différente et complémentaire par rapport à l'opérateur historique, il aura toutes les conditions pour pouvoir grandir le marché, pour augmenter les volumes de passagers qui vont préférer de plus en plus le train à détriment d'autres moyens de transport comme par exemple la voiture ou l'avion. Et je dis cela sur la base de l'expérience que nous avons déjà vécue en Italie suite à l'ouverture du marché à nouveaux opérateurs. Cela a permis en fait de presque doubler l'offre initiale et donc cela a permis en fait d'augmenter sensiblement les volumes de passagers avec des bénéfices énormes pour tous les acteurs concernés.
Des propos recueillis par Élise Dangean pour Europe 1, billet à partir de 23 euros en classe standard pour un Paris-Lyon.
Et on reviendra sur cette ouverture à la concurrence, sur la grande vitesse sur cette ligne Paris-Lyon avec notre invité à 6h10, le grand spécialiste des transports, Michel Savy.
Toujours sur les rails, le grand retour des trains couchettes alors que l'axe Paris-Vienne circulera à partir d'aujourd'hui. Jean-Baptiste Djebbari a annoncé hier soir son intention de développer les trains de nuit d'ici 2026 à 2030. Objectif pour le ministre des Transports, relier Paris à des capitales européennes comme Madrid, Rome ou encore Copenhague.
Il n'a que 24 ans, Max Verstappen peut d'ores et déjà ajouter une nouvelle ligne sur son CV, champion du monde.
Champion du monde de Formule 1, sacré hier à l'issue du dernier Grand Prix de la saison. Axel May, le Néerlandais, s'est imposé à Abu Dhabi face au septuple tenant du titre Lewis Hamilton.
Oui, le fougueux Verstappen, Mad Max comme il est surnommé, a réussi à déboulonner King Lewis de son piédestal doré. Écoutez sa joie encore au volant hier quand il gagne sur le fil ce dernier Grand Prix de la saison et remporte du même coup son premier titre mondial à 24 ans seulement. Lui qui à 17 ans était devenu le plus jeune pilote de F1, puis à 18 ans et demi le plus jeune vainqueur d'une course. Un champion précoce au caractère volcanique qui bouscule un univers sportif parfois aseptisé. Voici ce qu'en dit l'ancien pilote Romain Grosjean.
C'est un pilote engagé, c'est un pilote qui lâche jamais rien, qui est toujours à fond. Ça, c'est clairement une qualité assez impressionnante pour un pilote de son calibre.
Malgré la gestion polémique de la fin de Grand Prix hier par les commissaires de course, c'est bien Verstappen, le nouveau champion, à l'issue d'une saison pleine de tensions et de rebondissements, cannibalisé par les deux adversaires. Sur 22 Grands Prix, le Néerlandais en a remporté 10, le Britannique 8, et les fans de Schumacher peuvent souffler. Son record de titres mondiaux n'a pas encore été dépassé par Hamilton.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Et un mot de foot pour terminer. Marseille redevient dauphin en Ligue 1 après sa victoire 2-0 face à Strasbourg en 18e journée. Même score pour le PSG face à Monaco grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui atteint désormais les 100 buts en Ligue 1 avec le club de la capitale.
Le club de la capitale, le PSG, qui est donc toujours leader du championnat. Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h09 sur Europe 1. C'est l'heure des courses avec Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 401 Fury Mix. Il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie des courses dites à réclamer où les chevaux sont à vendre au plus offrant après l'arrivée. De plus, le profil de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer lui convient à merveille puisque l'hiver dernier, il s'était imposé à 2 reprises pour seulement 3 tentatives. Dès lors, il devrait pouvoir une nouvelle fois justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 1, Fury Mix.
Le numéro 1. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Très bon lundi à tous à l'écoute d'Europe 1. Merci de votre fidélité. Elle nous honore. On se retrouve dans une minute pour le pressing.
C'est notre revue de presse décalée avec au menu ce matin un restaurant kebab chanté par Aurel San, le combat de la raclette et des camélides débotoxés. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11. Bonjour, bon réveil. On ouvre le pressing et on est rejoint par Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux qui sont nombreux à s'intéresser au cas Yannick Jadot. En race campagne, titre aujourd'hui en France, Jadot sous pression, ajoute Libération. Sous pression depuis la proposition de primaire d'Anne Hidalgo. La Nouvelle-Calédonie fait le choix de la France, titre pour sa part le Figaro. Au lendemain de la victoire écrasante du non à l'indépendance lors du 3e et dernier référendum, scrutin marqué toutefois par une abstention record. Et puis un max de folie. C'est le titre de l'équipe après le sacre hier de Max Verstappen. On en parlait à l'instant. Le Néerlandais a tout juste 24 ans et vient d'être sacré champion du monde de Formule 1 au nez et à la barbe de Lewis Hamilton. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Il y a des combats qui méritent qu'on s'arrête. Voilà, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Dans la prochaine minute, exceptionnellement, on ne va pas parler du réchauffement climatique, de la déforestation, de l'égalité femmes-hommes. Mais un combat qui vous est cher, Julien, comme à tous vos compatriotes savoyards.
Au Savoyard.
Oui.
Faites attention.
Oui, pardon. La raclette à la cantine.
Ah !
Bah oui. C'est-à-dire sur le site du quotidien La Nouvelle République et sur le site du Parisien aussi. Combat mené, alors non pas par des hauts savoyards, mais par quatre collégiennes en Moselle. Si la raclette est servie à l'Élysée, il n'y a pas de raison après tout que ce ne soit pas le cas dans leur établissement de Ban-Saint-Martin, tout près de Metz. Des adolescentes qui sont allées jusqu'à monter un collectif, le RERC, le R-E-R-C, Rire et raclette en chantant. Elles ont placardé leurs revendications partout sur le mur du collège. Voilà ce qu'il était écrit. Collégiens, de nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal, accepté de tous. C'est un scandale. Leur demande est simple, qu'il y ait un repas raclette au moins une fois dans l'année. Ultra motivée, ultra remontée, elle comptait tenir tête à tout le personnel armé de la chanson de la raclette qu'elles étaient prêtes à entonner jusqu'au bout. Des paroles écrites sur le tract. Hein. Je ne vais pas chanter, mais je vais me permettre de vous les lire.
Oui.
En chaussettes ou en claquettes. J'aime la raclette, avec elle c'est la fête, j'aime la raclette. Alors pourquoi la raclette ?
C'est du Brel dans le texte,
c'est profond.
C'est vrai.
Réponse... Mais c'est efficace.
Oui, bah, et très efficace. Réponse de l'administration par le biais également d'une affichette. Décidément, le directeur de l'établissement s'est montré prêt à répondre positivement à cette, réclamation, à condition d'entendre la délégation du collectif RERC reprendre dans la cour du collège l'hymne de la raclette. Défi relevé haut la main. Malgré une logistique complexe, il y aura bien de la raclette servie à plus de 450 élèves à la cantine ce midi. Et ce choix du 13 décembre est hautement symbolique. Pourquoi le 13 décembre, Julien Pierce ?
C'est la journée mondiale de la raclette.
Ben voilà, on salue donc
ces collégiennes. De toute façon, on a une chance sur deux.
Ça, vous auriez pu le deviner.
Il y a une journée mondiale pour tout.
Voilà, donc ces collégiennes de Moselle et leur slogan, nous les saluons. La raclette mérite que l'on en mange parce que c'est bon et parce que vous vous posiez la question, Julien, le fromage sera fondu au bain-marie.
Ah.
Oui, parce qu'au poêle, ça commence à être compliqué. Il fallait plusieurs machines. Enfin, bref,
ah bah oui, pour combien d'élèves ?
450. Ah oui, plus de 450.
Ça fait beaucoup d'appareils à raclette, effectivement. Voilà. Bon, écoutez,
ça reste une raclette.
Bravo à ces jeunes filles.
Oui,
Et
on les embrasse.
On devrait leur décerner la Légion d'honneur. Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Musique toujours, avec un album de rap dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celui d'Orelsan. Déjà plus de 200 000 exemplaires vendus. Hein. Et ce succès, il a un retentissement jusque dans un kebab de Caen, sa ville, pas vraiment natale, mais la ville dans laquelle il a passé une grande partie de sa vie. Omblin, Julien, si je vous dis sauce magique Bogos, ça vous dit quelque chose ?
Alors, pas du tout.
C'est du propre. 5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magique Bogos.
Alors le Magic Bogos, hein, c'est un fast-food très connu des Canets, mais aujourd'hui le phénomène dépasse largement le Calvados, hein, les sandwichs s'y vendent comme des petits pains, tout ça grâce à ce morceau du propre. Ouest France, le journal est d'ailleurs a décidé ce week-end d'aller rendre visite à ce haut lieu de la gastronomie normande, à deux pas du port de Caen. Là-bas on retrouve les propriétaires des lieux, trois frères, Ahmad, Ali et Hamid, et surtout leur père, Esmaïl, dit le druide. C'est lui avec sa longue barbe blanche qui a mis au point la fameuse sauce Magic Bogos, une recette presque aussi bien gardée que celle du Coca-Cola, hein. Et selon la petite famille, depuis cette chanson d'Orelsan, c'est la cohue dans le restaurant. C'est fou, raconte Ahmad. À 3 clientes sur 4 nous parlent de la chanson. Le jour de la sortie, Orelsan est passé dans le resto et nos réseaux se sont enflammés. Plus 30% de fréquentation. Alors l'histoire de la sauce Magic Bogos commence en Iran, pays que les parents quittent en 1996 dans l'espoir de trouver une vie meilleure pour leurs enfants. Direction Caen donc, où ils ouvrent un premier kebab qui s'appelle la Panthère Rose. C'est là qu'ils rencontrent un jeune rappeur encore inconnu, un certain Aurélia Cotentin. Le contact passe bien. Aurel et ses potes viennent finir leur soirée chez Esmaïl. Orelsan s'en souvient bien, tellement bien qu'il le chante. Il a même l'élégance de prévenir la famille un mois avant la sortie de l'album. Ça va être du lourd, dit-il. Paris réussi, hein, et juste récompense pour ces bourreaux de travail dont le comptoir est ouvert quasiment 24 heures sur 24 et qui, malgré leur discrétion, hein, savent toujours vous arracher un petit sourire en vous appelant Bogos ou Belkos, d'où le nom de cette sauce. Alors désormais, il va falloir gérer, hein, cette célébrité toute neuve, d'autant qu'Orelsan n'est jamais à court de projet. Le Canet prévoit déjà une ligne de vêtements Magic Bogos et un clip directement dans le kebab.
Ah ouais.
Magic Bobuzz à la sauce Orelsan, c'est à retrouver dans le journal Ouest France.
Ça donne faim tout ça.
Voilà. Oui, hein,
c'est kebab ou raclette.
Bon. Ça dépend des jours ou ça dépend des soirs.
On va pratiquer l'alternance, comme dans toutes les bonnes démocraties. Merci beaucoup, Martin. Vous avez peut-être cette nuit regardé le concours Miss Univers ou samedi celui de Miss France. Et je suis certain que devant moult téléviseurs, certains et certaines ont vociféré dans un élan de chauvinisme régionaliste. Non mais celle-là, elle est refaite de partout, c'est de la triche. Et effectivement, ce serait de la triche, car les règlements sont très stricts. Et clair, en tout cas pour celui du concours Miss France, aucune chirurgie esthétique n'est tolérée, sauf si elle est réparatrice. Un règlement qu'il est de plus en plus difficile à appliquer, tant le botox ou les implants se sont démocratisés. Et ce qui est vrai pour les humains, l'est aussi, accrochez-vous bien, pour les dromadaires. Un article du Figaro.fr nous emmène ce matin en Arabie Saoudite, en plein désert, à 100 km au nord-est de Riyad, la capitale, là où se déroule actuellement le King Abdulaziz Camel Festival, un événement mondial qui attire des centaines de milliers de touristes et dont le point d'orgue est son concours du plus beau dromadaire, le plus célèbre du monde. 30 000 éleveurs de camélidés y sont présents. Ils viennent de tous les pays du Golfe, évidemment, mais aussi des États-Unis, de Russie et même de France, selon la presse locale. Tous attirés par les énorme dotation de ce concours, elle donne le tournis, puisque pas moins de 58 millions d'euros de prix sont en jeu. 58 millions d'euros, donc nul besoin d'avoir la bosse des maths pour comprendre qu'un beau dromadaire peut vous rendre riche.
Alors, mis à part la bosse, l'unique bosse donc, du dromadaire, quels sont les autres critères importants ?
Sa posture, déjà, pour commencer. Dromadaire se doit d'être majestueux, avec un cou gracieux. Il doit aussi présenter des lèvres longues et tombantes, un gros nez. Et concernant la bosse, elle se doit bien sûr d'être dessinée correctement. Tout cela est extrêmement normé, calibré et bien sûr, comme pour les humains, les dromadaires ne sont pas tous égaux face à ces diktats. Et c'est là que la chirurgie esthétique entre en jeu. Le phénomène n'est pas nouveau, mais jamais autant d'animaux avaient été exclus du concours. 43 dromadaires disqualifiés pour tricherie, 3 fois plus qu'en 2018. Peut-être parce que cette année, les organisateurs du festival n'ont pas lésiné sur les moyens pour démasquer les fraudeurs. Avant de voir, pour certains, leurs espoirs de diadème réduit à néant, les camélidés participants ont été conduits dans une salle où leur tête, leur cou et leur torse ont été scannés à l'aide d'appareils à rayons X et à ultrasons 3D. Des échantillons de peau ont même été prélevés pour des analyses génétiques. Bienvenue dans les experts dromadaires. Les résultats ont stupéfait les juges. Certains propriétaires et éleveurs ont injecté du botox dans les lèvres, le nez et les mâchoires de leurs animaux pour détendre leurs muscles et redessiner leur tête. Du collagène a également été utilisé, ainsi que des hormones pour stimuler le développement des muscles. En gros, ces pauvres dromadaires botoxés ressemblent à des candidats d'émission de télé-réalité.
Pauvre bête. Avec des lèvres tombantes, c'est ça, un gros nez. Absolument. Et toucher ma bosse, monseigneur. Ça, c'est ça le...
Ça ressemble à peu près à ça.
Canon de beauté dromadaire. Merci. Merci beaucoup, Julien. C'est très enrichissant, le pressing. C'est tout pour aujourd'hui. Oh, ça, dommage. Martin, on vous retrouve...
Un pressing de cette qualité.
Ben oui, on vous retrouve dans 40 minutes pour un journal des sports de cette qualité.
Exactement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1. Les principaux titres de ce lundi, le journal permanent, Alban Le Prince.
La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Réaction d'Emmanuel Macron à l'annonce des résultats du référendum sur l'indépendance de l'archipel. Les Calédoniens ont dit non à plus de 96%, mais le scrutin a été largement boycotté avec une participation de 43,90%. Aux États-Unis, l'espoir de retrouver des survivants est faible. Au moins 94 morts après le passage samedi de tornades dans 5 États. C'est dans le Kentucky qu'elles ont été les plus meurtrières. Les débris ont été aspirés jusqu'à 11 000 mètres l'altitude des avions de ligne. Boris Johnson, Premier ministre britannique, ouvre la dose de rappel anti-Covid à tous les plus de 18 ans avant le nouvel an, soit avec un mois d'avance face au raz-de-marée Omicron. Et puis en France, plus de 43 000 cas de Covid ont d'ailleurs été détectés hier et 400 enquêtes ont été ouvertes pour démanteler des réseaux de faux passes sanitaires, a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Europe 1. BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Bonjour Charles Dor.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur de Canto, une application indispensable pour les soirées entre amis. Expliquez-nous.
Canto a eu l'ambition à un moment de référencer nos chants. Donc quand je dis nos chants, c'est les chants de la culture populaire française, en fait, française, et des régions de France. Donc on a aussi des chants basques, des chants bretons, des chants en Corse, bon. Et les référencer, et en fait, du coup, les sauvegarder
en digital dans une base de données qui est exploitée, entre guillemets, par une application. Donc en fait, ça permet d'avoir une base de données qui est organique d'ailleurs, à laquelle tout le monde peut collaborer, en y apportant son répertoire, et en fait d'avoir ce trésor, on va dire, commun culturel, disponible partout et tout le temps dans la poche.
Donc en fait, l'application recense des centaines de chants traditionnels, des chansons populaires, recense en fait les paroles, et tout ça gratuitement.
Exactement. En fait, l'idée au départ, c'est vraiment d'être strictement un carnet de chants. Donc, il nous fallait les paroles. Puis c'est de là d'où vient la frustration au départ pendant un apéro. C'est qu'en fait, on avait, avec des copains, oublié des paroles. Donc, c'était vraiment le kérigme, on va dire.
C'est de là que part l'application.
Oui, tout à fait. En fait, ça part d'un apéro où je suis avec deux bons copains. On bloque sur les paroles d'un chant un peu hymne, comme la Madelon, quelque chose comme ça. Et en fait, la frustration vient de là. Alors, soit c'est les années, soit c'est l'alcool. Je me dis que c'est absurde de ne pas avoir un fichier PDF disponible avec au moins quelques chants. Et puis, on part d'un fichier PDF et on finit par une base de données enrichie où on finit par trouver plus que des paroles. On finit par trouver aussi l'histoire des chants, des partitions. En fait, il y a aussi, pour les gens qui oublient les airs, des liens vers Internet, vers des plateformes d'écoute Internet.
C'est très varié, hein. J'ai téléchargé l'application tout à l'heure, il y a plusieurs catégories, ça va des chansons scouts ou paillardes aux chants folkloriques ou religieux. Vous proposez également plusieurs périodes historiques, enfin il y a de quoi chanter. Hein.
Mais oui, en fait l'idée c'est vraiment de sauvegarder et de se réapproprier pleinement l'ensemble de ce patrimoine immatériel de toute la France et depuis toujours, parce qu'en France, on a toujours chanté. C'est très récent finalement, et d'ailleurs c'est assez triste qu'on ait levé un peu le pied sur cette pratique. J'imagine que c'est dû au monde moderne, où finalement on a la société du loisir arrive à nous, et peut-être qu'on prend aussi moins le temps de se retrouver entre nous, et de passer ces moments un peu de communion, qui sont malheureusement très beaux, je trouve. Alors on retrouve ça encore dans quelques régions, ou à l'occasion de certaines fêtes, mais ça tend à disparaître et il est hors de question parce que c'est trop beau.
Pour vous, c'est du patrimoine en danger, tous ces chants ?
Ben, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a des espèces de pôles énergétiques, j'ai envie de dire, encore très vivaces. On peut penser aux Bretons, aux Corses ou aux Basques. On a aussi les stades de rugby, il y a encore une petite tradition scout ou militaire, mais très légère. Avant, on chantait tout le temps, dans toutes les familles, ça chantait, pour chaque événement. Alors, je pense que oui, effectivement, le monde moderne a tendance à nous faire avaler du loisir, j'imagine, par Netflix, en fait, les ordinateurs, les réseaux sociaux, etc. Donc nous, ce qu'on voudrait finalement, c'est de repermettre aux gens de prendre confiance en eux, de retrouver la mélodie, et on va même, dans la prochaine version de l'application, donner des espèces de cours, en fait, comme des marchepieds pour que les gens puissent prendre confiance en eux en apprenant plus vite les chants, en réussissant à placer leur voix. Enfin voilà, il y aura des podcasts de la technique de chant, de la technique oratoire pour maîtriser son stress, etc. Et voilà, donner confiance aux gens et qu'ils se lancent.
Tous ces chants, c'est vous qui les ajoutez dans l'application ou est-ce que vous avez des contributeurs ?
Alors, j'ai commencé évidemment au départ le projet tout seul. Et puis, à partir de la page Facebook, j'avais proposé aux fans de monter un groupe pour des gens qui voudraient me filer un coup de main. Du coup, parce que ça a été assez positif comme retour, j'ai monté un petit site qui est parallèle, en fait, qui est le sparring partner de l'application, et à partir duquel on peut envoyer des suggestions de chants justement des chants à remplir, paroles, auteurs, petites historiques, etc. Une fois qu'on l'a envoyé, je reçois un mail, j'intègre à la base de données et il est partagé quelques secondes plus tard avec toute la base. Donc en fait, c'est vraiment une base organique.
C'est collaboratif.
Et exactement.
Merci beaucoup, Charles Dor, de nous avoir fait découvrir Canto, l'application qui recense des centaines de chants traditionnels et de chansons populaires à télécharger, donc d'urgence en prévision des fêtes, mais pas uniquement. Je vous souhaite une très bonne fin d'année.
Merci à vous.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Peirce.
Il est 5h28 et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accompagne chaque matin jusqu'à 6h30. Qu'avons-nous au programme, ma chère Omblin ?
Une série satirique ukrainienne dans laquelle l'actuel président et ancien comédien Volodymyr Zelensky incarne un professeur devenu subitement chef d'État.
Et juste avant, Omblin, vous allez nous présenter une galerie de portraits de héros pas comme les autres.
Quel est le point commun entre Is No Good, créé par Goscinny, le journal satirique Harakiri, les blousons noirs, le personnage de JR dans Dallas ou les dialogues cinglants d'Audiard ? Ils sont tous dans le beau livre Carrément méchant, paru au Cherche Midi. Méchant mais drôle, sarcastique, attachant et surtout provoquant. Des anti-héros qu'on adore détester. On sera avec son éditrice dans un quart d'heure.
aucune once de méchanceté en revanche chez Anissa Haddadi. La météo, un lundi pas terrible au nord.
Non, c'est pas terrible, Julien, surtout sur la moitié nord en effet. Sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Alsace, le Grand Est, les Pays de la Loire, on a un ciel qui va rester bien gris. Mais attention, vous savez que je cherche toujours du positif même dans le négatif, il n'y a pas de pluie. On a juste un plafond gris au-dessus de la tête sur toutes les régions situées entre la Bretagne et l'Alsace. On n'a même pas de vent sur les côtes. On a vraiment un temps calme mais gris. Attention ce matin au brouillard. On a pas mal de brouillard sur le Grand Est, sur la Bourgogne, le Lyonnais, le long de la façade atlantique. Là aussi, c'est un peu compliqué sur les routes. Sur la moitié sud ce matin, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, on a des brouillards qui, après la dissipation, vont laisser place à un grand et beau soleil sur toute la moitié sud du pays. Aujourd'hui, on a un temps sec, ensoleillé, très agréable, sans vent. Attention, on a toujours les Pyrénées-Atlantiques et les Landes en vigilance orange crue. On a une crue importante sur la Dour et la décrue est très très lente. Moins 4 à Annecy ce matin, moins 3 à Gap, moins 2 à Grenoble, 1 degré à Lyon, 8 à Paris, 9 pour Quimper. Cet après-midi, il fait frais avec seulement 3 degrés à Vienne en Isère, 7 à Besançon et Saint-Étienne, 11 à Paris et Rennes, 15 à Nice et 18 degrés sous le soleil à Tarbes.
Quand même.
Il fait très doux à
Merci
une semaine de Noël.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
C'est Noël avant l'heure. Les premiers chèques énergie et inflation promis par le gouvernement commencent à être envoyés aux Français bénéficiaires. Explication dans ce journal. La campagne pour la présidentielle avec le premier déplacement à l'étranger d'Éric Zemmour en tant que candidat. Cette fois, l'entourage de l'essayiste n'a rien laissé au hasard. La crise de la pêche entre Paris et Londres. Le Conseil des ministres européens doit trancher la question des licences manquantes aujourd'hui alors que l'ultimatum a expiré. Les pêcheurs français n'entendent pas relâcher la pression. Et puis la Ligue des champions avec le tirage au sort des huitièmes de finale. Lille et le PSG attendent de connaître leurs adversaires.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ce lundi marque le coup d'envoi des aides de l'État aux ménages modestes frappés de plein fouet par la hausse des prix. Le chèque inflation et le chèque énergie de 100 euros chacun commencent à être envoyés. Le premier concerne 38 millions de Français gagnant moins de 2000 euros net par mois. Le second est réservé à un peu moins de 6 millions de personnes particulièrement affectées par la hausse des prix du gaz et de l'électricité, Maud Descamps.
En effet, les premiers chèques partent aujourd'hui pour une grande partie des Français. Si vous habitez en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté ou encore dans les Hauts-de-France, vous devriez le recevoir cette semaine. Pareil pour l'Île-de-France, la Normandie et le Grand Est. Une deuxième salve d'envoi commencera le 20 décembre pour la région PACA ou encore la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Cette rallonge de 100 euros vient s'ajouter au chèque énergie reçu au printemps dernier et dont le montant était en moyenne aux alentours de 150 euros. Pour le recevoir, vous n'avez aucune démarche à faire. Le chèque sera directement envoyé donc par courrier à votre domicile ou alors à votre fournisseur d'énergie si vous avez opté pour l'automatisation. Et comme pour le chèque énergie, ce complément est destiné à vous aider à payer vos factures d'électricité, de gaz, de fioul domestique et autres combustibles de chauffage, comme par exemple le bois. Et il faudra l'utiliser avant le 31 mars 2023.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
La campagne pour la présidentielle. Éric Zemmour a donc choisi l'Arménie pour son premier déplacement à l'étranger en tant que candidat.
Il est arrivé samedi matin accompagné de Philippe Devilliers, le fondateur du Puy du Fou. Déplacement symbolique pour Éric Zemmour. L'essayiste voit dans l'Arménie l'illustration de sa théorie sur la guerre de civilisation qui oppose les chrétiens aux musulmans. Une visite où rien n'a été laissé au hasard. L'entourage du candidat a tout fait pour éviter les dérapages. Victor Chabert.
Oui, Éric Zemmour visite des lieux très symboliques, le premier monastère chrétien ou encore le mémorial du génocide arménien à Erevan. Il insiste sur la situation du pays au cœur de ce qu'il pense être un conflit de civilisation, d'un affrontement entre Orient et Occident.
L'Arménie, nation chrétienne et qui entend le rester au milieu d'un océan islamique. Et l'Arménie nous donne vraiment un exemple magnifique de résistance.
Mais ce qui tranche avec ses précédents déplacements, c'est sa posture. Ici, il y a un vrai travail qui est fait de la part d'Éric Zemmour et de son équipe. Le programme de son séjour multiplie les séquences solennelles. Aucune place n'est laissée à un potentiel faux pas ou une polémique. Par exemple, il n'y a pas de prise de parole dans des lieux de recueillement, comme s'il ne voulait pas répéter l'erreur de sa déclaration devant le Bataclan le 13 novembre dernier. Pour son premier déplacement à l'étranger, le candidat Zemmour veut donc asseoir sa stature. Ce matin, il poursuit par des rendez-vous avec la presse arménienne.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. À Perpignan, Anne Hidalgo a renouvelé son appel à l'organisation d'une primaire à gauche. Seul chemin qui permet de se rassembler avant le premier tour, a justifié la maire de Paris et candidate à l'Élysée devant un millier de militants. Proposition une nouvelle fois rejetée par la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot avait choisi Laon pour son tout premier meeting de campagne. L'écologiste invite les socialistes à faire preuve de panache et donc à se désister à son profit. Et puis la Nouvelle-Calédonie a 18 mois pour définir un nouveau statut et ses relations avec la métropole après la victoire écrasante du non au référendum sur l'indépendance. Scrutin marqué par un taux d'abstention record, 56% des électeurs ont boudé les urnes.
La crise de la pêche entre Paris et Londres et la date butoir est passée depuis 3 jours. La France estime qu'il manque encore 81 licences pour ses pêcheurs.
Le gouvernement britannique et Jersey en ont accordé 23 de plus, mais Paris, qui en a obtenu un peu plus d'un millier au total, estime que le compte n'y est toujours pas. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui avec l'Union européenne, une issue attendue avec impatience par les pêcheurs français. Sandrine Brioul.
Voilà encore une nouvelle échéance et les pêcheurs y croient. Ils espèrent que ce Conseil des ministres européens peut tout changer. Vendredi déjà, 23 licences ont été accordées in extremis et d'un revers de main, des miettes selon les pêcheurs français, mais qui font dire au gouvernement que peut-être tous les axes de négociation ne sont pas rompus. Attention, prévient pourtant le porte-parole breton Jacques Doudet de ne pas trop jouer avec les nerfs des pêcheurs.
C'est fondamental, l'institution européenne, si elle défend ses pêcheurs, a tout à y gagner. Par contre, si elle ne le fait pas, en termes d'image, ça sera un signal absolument terrible. Donc rien n'est arrêté. On attend d'abord la réponse politique, c'est normal, hein, l'ultimatum venait des instances européennes, mais après ça sera effectivement aux professionnels de se réunir pour trouver la réponse qui sera crescendo.
Une pression qui monte chez les pêcheurs, et si l'issue du Conseil européen venait à décevoir, elle pourrait bien signer le début d'un bras de fer franco-anglais qui cette fois se jouerait en mer. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.
Aux États-Unis, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants après la succession de tempêtes et de tornades qui ont balayé 6 États. On déplore 94 morts selon un bilan toujours provisoire. C'est dans le Kentucky que les dégâts sont le plus impressionnants. La ville de Mayfield a été pratiquement rayée de la carte après le passage d'une tornade qui a tout emporté sur son passage.
Le foot, le Paris Saint-Germain peut compter sur Kylian Mbappé, exceptionnel encore une fois hier soir face à Monaco en clôture de la 18e journée de Ligue 1.
2 buts de l'attaquant français permettent aux Parisiens de s'imposer 2-0 face à Monaco et de maintenir leur avance au classement de la Ligue 1. Le PSG compte 13 points d'avance sur Marseille, vainqueur de Strasbourg 2-0. Les Parisiens et les Lillois qui attendent maintenant de connaître leur adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort à midi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. A priori, ça devrait être plus simple pour Lille, Jean-François Pérez.
Oui, les nordistes ont réalisé un exploit en terminant premier d'un groupe relevé. Conséquence pour leur 2e participation seulement au 8e de finale de la Ligue des Champions, ils seront relativement protégés. Alors un club à éviter à tout prix, c'est Chelsea, le champion d'Europe. Un écueil majeur, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Pour le reste, des adversaires solides mais pas imbattables. Tout sauf une obsession pour l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec.
J'ai vu passer des trucs, là il y a des probabilités de jouer telle ou telle équipe, j'y comprends pas grand chose. Mais de toute façon, la campagne, elle est déjà belle. Quel que soit l'adversaire que l'on aura, on continuera à faire ce qu'on a fait le début, on jouera à 300%.
Quant au PSG, qui jouera pour la 10e fois consécutive un 8e de finale de Ligue des Champions, le sort pourrait être bien plus problématique entre le Bayern Munich, impérial en Allemagne, Liverpool, de nouveau impressionnant, le Real Madrid de Benzema ou encore l'Ajax d'Amsterdam en pleine renaissance. Les Parisiens auront bien besoin de leur trio de stars, Messi, Neymar, Mbappé, pour poursuivre le rêve d'une première victoire dans la plus prestigieuse des compétitions de club.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Max Verstappen fait son entrée dans le cercle des champions du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'est imposé hier au Grand Prix d'Abu Dhabi au terme d'une course folle et d'un dernier tour qui est d'ores et déjà entré dans l'histoire. Il devance Lewis Hamilton qui voit là s'échapper l'occasion de remporter un 8e titre mondial.
Et donc de dépasser un certain Michael Schumacher.
Voilà.
Quelle course, quel scénario, encore une fois. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses hippiques. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction la Côte d'Azur, Cagnes-sur-Mer pour ce Quintet, une course de haies handicap qui réunira 16 chevaux sur la distance de 4000 mètres. Et j'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 2, Marty McFly, un cheval tout neuf, ayant seulement couru à 7 reprises et déjà obtenu 2 victoires alors qu'il est âgé de 5 ans. perfectible et volontairement ménagé ces dernières semaines en vue de cet objectif, il s'annonce comme un vainqueur en puissance. On lui opposera les numéros 11, Brick, deuxième de cette même épreuve l'an dernier, 9, Celtior et 4, My Boy, ayant souvent bien réussi sur cette piste cagnoise, et 10, Embrun d'Oudéry, qui alterne avec réussite les deux spécialités, les haies et le steeple. Enfin, les numéros 7, Cœur Nantais, 14, Cyrano de Paille et 3, Monty Saga compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 11, 9, 4, 10, 7, 14 et 3.
Des pronostics à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Il est 5h39 et c'est le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Cela fait aujourd'hui un an jour pour jour que le rail français est ouvert à la concurrence. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ambline, bonjour Julien.
La compagnie italienne Trenitalia, Pauline, s'apprête à lancer ses trains à grande vitesse sur le réseau français, 40 ans après l'inauguration du TGV en France. Retour avec vous sur ce 22 septembre 1981, le jour où le premier Paris-Lyon a été inauguré en 2h40.
Lorsque le TGV arrive en gare du Creusot, François Mitterrand, le président de la République, est accueilli par un orchestre de trompettes. L'ambiance est à la fête. Orange et gris, le nez aérodynamique inspiré du devant d'une Porsche, les rames articulées, le train à grande vitesse est célébré dans le discours de François Mitterrand.
Ces infrastructures modernes favorisent une répartition harmonieuse des activités sur tout le territoire. Elles irriguent les régions et les communes qu'elle dessert.
Le président, fils d'un chef de gare, s'est volontiers prêté à l'exercice à bord du TGV.
Avant de prononcer son discours inaugural dans la nouvelle gare de Montchanin, le président de la République avait amené à quai le TGV dont il avait pris les commandes à Mâcon. Pendant ce parcours de 50 km couvert en 20 minutes, François Mitterrand n'a pas pu apercevoir son paysage fétiche, la roche de Solutré, noyée dans le brouillard qui recouvrait le pays de Lamartine.
Un orage a effectivement provoqué quelques frayeurs aux cheminots et la pluie a forcé le conducteur à freiner brutalement. Mais dans l'ensemble, le voyage s'est bien passé. Le TGV a roulé à 260 km/h. C'était la limite à l'époque.
Vous avez l'impression de l'avoir loupé, votre train, ou drôlement bien réussi ?
Aujourd'hui, compte tenu des circonstances, qui sont des circonstances très exceptionnelles, je pense que nous l'avons réussi.
En abrégeant le temps, le TGV a réduit les distances, disait-on à l'époque, faisant presque de Lyon une banlieue de Paris ou de Paris une banlieue de Lyon.
Un moyen de transport révolutionnaire, en tout cas Pauline, qui suscite quelques interrogations quant à la sécurité.
Yvan Levaille reçoit dans son émission Expliquez-vous sur Europe 1 un conducteur de TGV juste avant l'inauguration en 1981.
On a un peu peur quand même. Enfin, si je devais devoir à vos deux yeux ma sécurité à 260-280 à l'heure, je serais un peu inquiet, quoi. Là, il n'y a pas de défaillance humaine possible.
Il n'y a pas de défaillance humaine possible. Il y a des dispositifs de surveillance qui sont là pour la sécurité.
Alors, vous faites un infarctus, là, ou vous évanouissez. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes combien?
Eh bien, le train va s'arrêter tout seul, 3 km sans plus loin.
Et en gros, ça gagne combien, pilote de TGV?
Dans les 8 500 francs par mois.
Ah, tout de même.
Grande curiosité pour le métier de conducteur et pour les distances, le temps, avec quoi va-t-on plus vite? TGV, voiture, avion, Europe 1 lance son premier test du bureau de Paris à celui de Lyon. Trois journalistes pour trois moyens de transport.
En fait, vous ferez le voyage avec nous et que le meilleur gagne.
Alors, verdict.
En avion, 2h40 pour 570 francs. En TGV, 3h44 pour 261 francs. En voiture, 4h30 pour 278 francs.
Après le Paris-Lyon, ce sera le TGV Atlantique qui sera inauguré en 89. Cinq ans plus tard, le TGV passera cette fois sous la Manche pour relier Paris à Londres.
Merci beaucoup Pauline Jacquot. C'était le jour où... Il est 5h42, dans un instant, le livre Carrément méchant. Oui. Tout un programme.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous, il est 5h43. Ce sont des revues caricaturistes au dessin caustique, des sales types au cinéma, des crapules ou encore des sales gosses. Tout un livre leur est désormais consacré. Il s'appelle Carrément méchant, publié au Cherche Midi. Et nous sommes Omblin avec son éditrice.
Bonjour Maria Félix Frazao.
Bonjour.
Carrément méchant, avec en sous-titre, parce que s'il fallait aimer que les gentils, nous serions morts d'ennui. Voilà donc une galerie savoureuse de portraits piochés sur les écrans, dans la musique, la vie politique et culturelle, des mauvais esprits des années 60 à aujourd'hui. Je cite le livre. Comment vous est venue d'abord cette idée d'un livre avec uniquement des méchants comme héros.
Tout est parti du livre que nous avons publié l'année dernière dans le même esprit, qui s'appelait « Incorrect ». Et où on explorait toutes les formes d'impertinence, d'irrévérence qui irradiaient vraiment toute la société dans les années 70 et 80, qui nous font cruellement défaut aujourd'hui, si je peux dire. Et on s'est aperçu finalement qu'il y avait quelque chose qui était encore plus en danger que l'incorrection, c'était la méchanceté qui était difficilement admise, alors que paradoxalement, jamais les méchants n'ont été aussi populaires et on peut dire que toute la pop culture d'aujourd'hui est une sorte de célébration des méchants.
Des méchants en danger, donc ça soulève une question. Est-ce qu'on peut rire encore aujourd'hui avec ceux qui se moquent des autres? Alors je citerai Audiard dans La bouche de Gabin dans le film La traversée de Paris, et tout un chapitre de carrément méchant. Salaud de pauvre, a-t-on le droit de se moquer de ceux qu'il faut plutôt protéger?
Alors, je dirais, on a le devoir, mais à condition de s'entendre sur les mots, puisque la fameuse phrase de Desproges sur « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui » a souvent été utilisée pour justifier des propos racistes, sexistes ou sans aucun intérêt. Je crois qu'on doit effectivement rire avec ceux qui se moquent, parce qu'ils ont un avantage indispensable, qu'ils nous montrent des choses. Les caricaturistes ou les cinéastes italiens, par exemple, des années 60 ou 70, d'affreux sales et méchants, ils nous montrent, ils nous forcent à regarder ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on cache parce que c'est trop dérangeant. Il faut continuer à rire avec eux, à condition que ce soit à rire de l'ironie, de la provocation, de la caricature, du trait d'esprit, et non pas de la méchanceté qui ne sert à rien, à part blesser des personnes.
Charlie Hebdo, Harakiri, L'écho des savanes, alors c'est le devoir des revues satiriques d'être bête et méchante, comme le maître de l'humour bête et méchant Cavana.
Absolument, et si j'osais, je dirais que la preuve, c'est que quand cet espace de liberté n'est plus là, ça crée un vide terrible, parce qu'il n'y a plus ce rire libérateur, il n'y a plus ce contre-pouvoir au conformisme, au moralisme. Cavana utilisait lui-même le mot déflagration. Lui, il disait « mon objectif, c'est pas de faire de l'humour. Ce que je veux, c'est provoquer un rire qui lui-même sera une déflagration et qui nous oblige un peu à réfléchir et à être toujours du côté des faibles et des vaincus et jamais du pouvoir. »
Au cinéma, il y a tout un chapitre dédié aux écrans. Le cinéma, les séries et la télévision, sans méchants, on s'ennuierait, sérieusement. C'est lui qui tire la couverture à lui, qui a le meilleur rôle. On adore détester Cersei Lannister dans Game of Thrones. Cette série aurait beaucoup moins de saveur si elle n'existait pas.
Certainement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Game of Thrones a beaucoup puisé dans une sorte de pépite de la méchanceté très française, qui est les Rois Maudits. Son réalisateur l'avoue lui-même. Et si vous regardez tous les meilleurs rôles, toutes les belles punchlines, tous les héros les plus stylés, y compris formellement, ce sont des méchants. Et chaque fois qu'un réalisateur a voulu, ou qu'un auteur même, parce qu'on peut dire la même chose aussi dans la littérature, chaque fois qu'on a voulu tuer un méchant, il y a eu une protestation tellement forte que non seulement il renaît, mais il renaît encore plus beau et encore plus séduisant qu'avant.
Ce serait qui votre méchant préféré? Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou ailleurs.
Alors, je vais vraiment répondre, mais une banalité, pardon, mais Joker, bien sûr.
Ah, bien sûr.
D'autant plus qu'avec Joker, on a pu explorer toutes les subtilités de la méchanceté entre le méchant qu'on a envie de sauver parce qu'on sent qu'il a souffert, le méchant qui est tellement psychopathe que c'est une sorte de feu d'artifice. Je crois que c'est difficile de ne pas aimer Joker.
Oui, Joker, l'ennemi emblématique de Batman, dont on peut explorer toute la palette de méchanceté grâce aux comédiens qui l'ont incarné au cinéma. Cela va de Jack Nicholson à Joaquin Phoenix.
Ah oui, je crois que l'interprétation de Jack Nicholson a fait définitivement basculer le rôle de Joker. Il a vraiment porté, je crois, à un niveau qu'on ne connaissait pas encore au cinéma, parce que au cinéma, pendant très très longtemps, on l'a oublié, mais pendant très longtemps, les méchants ne pouvaient pas gagner à la fin, ils ne pouvaient pas être valorisés. C'est le fameux code Hays américain qui avait édicté des règles très précises. En aucun cas, un méchant ne pouvait à la fin avoir le beau rôle, ou même tout simplement s'en tirer face à la justice. Et je crois que Joker a un peu, le code Hays n'existait plus, mais Joker a vraiment porter la méchanceté au niveau d'un art cinématographique, et c'est une rencontre avec un acteur extraordinaire.
Merci beaucoup, Maria Félix Frazao. Je rappelle que vous êtes éditrice au Cherche Midi et vous publiez Carrément méchant, des méchants attachants, vous le précisez bien, sont exclus les dictateurs, les serial killers et les monstres de films gore.
Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, à vrai dire.
Effectivement,
merci à vous.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h49 sur Europe 1. On retrouve la gentille et bienveillante Alban Le Prince pour l'essentiel de l'actualité.
Et les secours sont toujours à la recherche de survivants aux États-Unis. Au moins 94 morts après le passage de tornades dans 5 États. C'est celui du Kentucky qui a été le plus touché. La ville de Mayfield n'est plus qu'un champ de ruines. En Nouvelle-Calédonie, la transition s'ouvre pour trouver un nouveau statut à l'archipel après le référendum sur l'indépendance rejeté à plus de 96%. 16% des voix, mais le scrutin a été boycotté par les Kanaks, puisque le taux de participation s'élève à moins de 44%. Emmanuel Macron en visite chez un adversaire politique, mais un partenaire européen. Le président est en Hongrie aujourd'hui pour rencontrer le Premier ministre Viktor Orban, à moins de 3 semaines du début de la présidence française de l'Union européenne.
On en vient à l'actualité culturelle et le lundi, sur Europe 1, on parle série avec Marie Jiquel.
Bonjour Marie.
Bonjour Ombline et Julien.
Bonjour.
Vous nous présentez ce matin une série humoristique et inédite qui date de 2015, mais qui est diffusée en ce moment sur Arte. Une série à l'impact international et un rôle prémonitoire. On parle de la série ukrainienne « Serviteur du peuple ».
Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça,
non.
Mais c'est la série qui a fait découvrir au peuple ukrainien une page de son histoire, puisque l'acteur principal n'est autre que l'actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 avec son parti Serviteur du peuple, en référence à cette série diffusée 4 ans avant son élection. Et cette série comique aux héros sympathiques a joué sur la campagne. La réalité dépasse la fiction, puisque la série met en scène un professeur d'histoire un peu loser hein, qui revient vivre chez ses parents après un divorce et qui devient président de l'Ukraine un peu par hasard. Il l'apprend d'ailleurs depuis ses toilettes. Alors comment en est-il arrivé là? Eh bien un jour, cet enseignant se lance spontanément et passionnément dans une critique de la classe politique, de la corruption qui gangrène le pays. Et cette violente diatribe est filmée à son insu, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est ce coup de gueule qui va faire le buzz et Vassili Golobo-Rodko se fait élire.
Les épisodes racontent donc ses premiers pas balbutiants de président, comme son investiture à laquelle il arrive en taxi ou les premières rencontres délicates avec ses homologues.
Et oui, la série se veut très réaliste et forcément les références à l'actualité, aux dirigeants amusent. Comme cet épisode où le héros suit un cours de diplomatie, comment serrer la main de Vladimir Poutine ou Angela Merkel?
Dames et господа, Angela Merkel.
Guten Abend, Herr Vassili Petrovich.
Guten Abend.
Она должна доминировать, от этого зависит размер помощи Центробанка Германии.
Danke schön.
Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire. On conseille de serrer la main de la chancelière avec délicatesse tout en dominant la main, car je cite, le montant de l'aide de la Banque fédérale en dépend. Alors ce qui est drôle aussi, c'est évidemment de voir cet anti-héros à la vie un peu minable endosser le costume d'un dirigeant et céder lui aussi aux privilèges hein, qu'il critiquait tant. Costume chic présenté par Karl Lagerfeld, hein, un acteur qui joue Karl Lagerfeld, ça vaut le détour. Montre de luxe, disparition de ses dettes. Vassili découvre également l'équipe qui l'entoure, sa psy, qui a elle-même une psy, son flatteur personnel qui doit constamment lui rappeler à quel point il est génial, et aussi son sosie chargé d'inaugurer les monuments et de boire avec le président biélorusse Loukachenko. C'est déjanté et bien écrit.
Bon, alors, cette série satirique, elle a pratiquement servi de campagne. Elle a mené Volodymyr Zelensky à la présidence de l'Ukraine.
Oui, tout à fait, élu avec 73% des voix. J'ai demandé à Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et auteur du livre sur la politique ukrainienne « Le Cavalier Bleu », de me raconter la réelle ascension au pouvoir de Zelensky.
Il déclare candidat en 2018, donc il est jusque-là un acteur, un humoriste. Et en 2018, donc il annonce le fait qu'il va se présenter à l'élection présidentielle. Et effectivement, Zelensky, c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. On montre dans les serviteurs du peuple l'usage des selfies. C'est quelque chose qu'il a pu faire également. C'est quelqu'un donc, qui s'est mis en scène, hein, effectivement, et qui était comme ça dans une espèce de communication, à la fois, j'allais dire, facile. utile et direct avec les citoyens.
Bon alors aujourd'hui, fini de rire pour le comédien et président Zelensky qui a cette fois-ci de vrais dossiers à traiter, comme en ce moment les tensions avec la Russie.
Et c'est quelques 100 000 soldats russes massés à la frontière avec le Donbass et qui menacent d'envahir le pays à peu près à tout moment. C'est en tout cas la menace qu'agite Vladimir Poutine. Merci beaucoup Marie. Serviteur du peuple, c'est à voir sur la plateforme gratuite
Arte.tv.
Ah, faut préciser. Merci beaucoup.
Arte.tv, merci.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h57 sur Europe 1, nous sommes le lundi 13 décembre et dans un instant, la météo, le journal et la fin d'un monopole.
Vieux de 83 ans, une autre compagnie que la SNCF va transporter des passagers en France. Ce sera à partir de samedi, la compagnie italienne Trenitalia qui va lancer ses premiers trains grande vitesse et là où ça fait le plus mal pour la SNCF, c'est-à-dire Paris-Lyon, la ligne la plus fréquentée et la plus rentable. La compagnie nationale française est-elle suffisamment armée pour résister, d'autant que d'autres acteurs comptent s'imposer sur nos rails prochainement? La concurrence va-t-elle être bénéfique aux usagers? Eh bien, on en parle dans une dizaine de minutes avec Michel Savy, grand spécialiste des transports. On écoutera ensuite, Omblin, votre indispensable partition.
Le groupe d'Eric Clapton et son unique album en 1970. Derek and the Dominos et la pochette mythique de l'album Leila qui a causé au guitariste bien des soucis. Rendez-vous dans 20 minutes.
La météo avec Anissa Haddadi et c'est ce matin le retour des brouillards.
Oui, ils sont nombreux, les brouillards, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de brouillard. Bon, c'est bon signe, vous allez voir pour le reste de la journée, mais c'est vrai que ce matin, il va falloir être prudent dans le sud-ouest entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc c'est vrai que du côté de Bordeaux jusqu'à Toulouse, là, on a pas mal de brouillards ce matin, en Rhône-Alpes aussi, en Bourgogne, en Franche-Comté. On a Vincent qui nous écrit ce matin, il est sur la route, il nous écoute entre Saint-Hermine et Fontenay-le-Comte. C'est plein cœur de la Vendée, hein, là, vous avez de la chance déjà, mais attention,
bonjour,
il y a des
brouillards.
Vincent, levez le pied, la visibilité est réduite ce matin. Cet après-midi, sur la moitié nord, les brouillards vont avoir du mal à se dissiper. C'est vraiment au nord de la Loire que la journée sera la moins agréable, en tout cas la plus grise. On va avoir un ciel très nuageux toute la journée, mais sans pluie. Hein. On a le retour d'un temps très sec. Sur la moitié sud, après la dissipation des brouillards dans le sud-ouest, c'est du grand soleil pour tout le monde. Entre l'Atlantique et la Méditerranée, du soleil sans vent et presque sans nuages. Attention, toujours cette vigilance orange aux crues dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques avec cette crue sur la Dour qui a vraiment du mal. Et la décrue est très très lente. Moins 5 à 1 degré ce matin, c'est dans l'Est qui fait le plus frais. 3 à 9 à l'Ouest. Cet après-midi, comptez 3 à 18 degrés. On a une très grande amplitude thermique à Tarbes, par exemple, où on a 1 degré ce matin et 18 cet après-midi.
Effectivement. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, vous avez bien raison. Nous sommes le lundi 13 décembre. Très bon réveil à tous, il est 6h. Un an et demi de dialogue pour trouver un nouveau statut. C'est la prochaine étape pour la Nouvelle-Calédonie qui a dit non ce week-end à l'indépendance. Un archipel où il faut tout réinventer. Les explications de notre envoyé spécial à Nouméa dès le début du journal. Prendre le train entre Paris et Lyon sans passer par la SNCF, ce sera possible dès samedi prochain. La billetterie de l'opérateur Trenitalia ouvre ce matin. Première compagnie à concurrencer la SNCF avec des tarifs alléchants. Le mode d'emploi à venir avec Élise Dangean. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au marché de Noël de Strasbourg où les visiteurs sont au rendez-vous et ce malgré les restrictions sanitaires. Le reportage de notre correspondante à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 18 mois pour définir le nouveau statut de l'archipel. Voilà ce qui attend à présent la Nouvelle-Calédonie. Le territoire a dit non hier à l'indépendance avec 96% des voix. Une abstention record et un boycott du scrutin par les Kanaks. Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie. Caroline, ce troisième référendum marque la fin des accords de Nouméa et donc le début d'une période de transition pour l'archipel.
Oui, c'est une étonnante forme de vide juridique dans lequel il faut tout inventer. Les institutions locales vont évoluer alors que l'archipel a aujourd'hui son propre gouvernement et un congrès qui vote les lois. Les dérogations qu'avait la Nouvelle-Calédonie s'arrêtent. Cette exclusion, par exemple, des listes électorales locales de 35 000 personnes arrivées récemment. C'est incompatible avec la Constitution française qu'il faut aussi réviser pour y définir la future Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on sait déjà, c'est que le territoire à venir garde une forte autonomie. La France a légué des compétences comme la santé, le mécanisme est irréversible. Mais tant que l'archipel reste dans la République, c'est Paris qui continue d'y assurer la justice, l'ordre public et la monnaie. Les forces armées tricolores ne quitteront pas l'île. Un nouveau statut à définir entre l'État, le Parlement et l'ensemble des forces politiques locales. Le tout soumis par référendum, encore une fois, d'ici juin 2023.
Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Nouméa.
SNCF ou Trenitalia, la concurrence est déclarée entre les deux compagnies. Dès ce matin, les voyageurs de la ligne Paris-Lyon auront le choix. La billetterie de l'opérateur italien ouvre aujourd'hui à 9h.
Trenitalia s'attaque à la ligne la plus rentable de la SNCF un an après l'ouverture à la concurrence. Les premiers trains rouges et blancs partiront samedi prochain. Alors à quelle fréquence et surtout à quel prix? Le mode d'emploi d'Élise Dangean.
Les trains rouges et gris de Trenitalia assureront dans un premier temps deux allers-retours par jour entre Paris et Milan, mais la compagnie prévoit déjà d'en ajouter trois de plus l'an prochain. Des trains récents de 2014, plus technologiques et respectueux de l'environnement, à bord desquels vous retrouverez un design italien. Le service de restauration sera lui aussi aux couleurs de l'Italie et le tiramisu pourra même vous être apporté à votre siège, commandé depuis la plateforme multimédia où vous pourrez accéder à des films et à de la musique. En revanche, gros point d'interrogation sur les prix, qui démarrent certes à 23 euros pour un Paris-Lyon, mais qui évolueront selon la fréquentation. C'est d'ailleurs sur la clientèle d'affaires que Trenitalia met le paquet. En plus de la première classe, elle propose une classe exécutive au prix fixe de 139 euros et même une salle de réunion. Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter vos billets sur le site de l'opérateur et dans ses boutiques en gare. Les bornes et l'application seront disponibles d'ici une semaine.
Les précisions d'Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Et on va analyser cette arrivée de la concurrence sur le rail français avec un grand spécialiste des transports, Michel Savy, et ce, dans un peu moins de 10 minutes. Il est 6h passées de 3 minutes sur Europe 1. Le pape François demande des comptes aux évêques de France. Une délégation est reçue aujourd'hui à Rome, 2 mois après la remise du rapport Sevé sur la pédophilie dans l'Église. 330 000 victimes depuis les années 50, selon les auteurs. Une statistique remise en cause par le Vatican.
Un rapport qui a aussi ouvert un autre débat. Faut-il toujours dire « mon père », l'expression consacrée pour s'adresser à un prêtre, une formule qui pourrait prêter à confusion. C'est ce que pensent certaines figures de l'Église. Et Virginie Riva, selon eux, cette formule alimenterait même la position d'autorité du prêtre.
Oui, c'est l'une des pistes de réflexion dans l'Église après les révélations de la commission Sauvé, désacraliser la figure du prêtre, éviter les dévoiements de son autorité spirituelle sur les fidèles. Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, en a parlé dans son discours de clôture lors de la réunion de tous les évêques à Lourdes en novembre dernier, une formule un peu passée inaperçue.
Il me semble en particulier que la métaphore de la paternité devrait être scrutée sous tous les angles. Car il y a une paternité incestueuse, même symboliquement, qu'il faut rejeter avec horreur.
Cela fait pourtant des années que le pape François en parle. Prêtres et fidèles sont pour lui sur un pied d'égalité. Pour le prêtre Daniel Duigou, arrêter de dire « mon père » serait une très bonne chose.
Parce que notamment lorsque l'on dit « père » au prêtre, on met l'autre dans la position de l'enfant. Et donc dans une position de soumission, ce qui n'a pas lieu d'être. Or, c'est des mentalités là qu'il faut faire évoluer.
Un sujet qui sera au cœur de la réflexion des groupes de travail en train d'être constitués par les évêques de France.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1.
Un raz-de-marée Omicron arrive, c'est l'avertissement du Premier ministre Boris Johnson hier soir à la télévision britannique. Le nombre de cas a augmenté de 65% en une semaine.
Et au Royaume-Uni comme en France, Delta reste à ce stade le variant majoritaire, celui qui pousse la cinquième vague. Nous sommes en train d'atteindre le pic, a précisé Olivier Véran ce week-end. Fermeture des boîtes de nuit et restrictions sur les marchés de Noël. Avec quelles conséquences sur la fréquentation? Reportage dans le marché de Noël à Strasbourg avec notre correspondante Mélina Fachin.
Malgré le masque obligatoire partout, malgré le pass sanitaire imposé sur de plus en plus de sites du marché de Noël, les visiteurs ne se découragent pas, bien au contraire.
On a été privés pendant un an, on va dire, il n'y a pas eu de marché, il y avait des restrictions, enfin bref. Donc là, on a envie de se faire plaisir, oui.
C'est pas parce que je me porte un masque, je ne vais pas acheter ce que j'ai envie d'acheter.
On dépense comme d'habitude pour moi.
Nous, on ne fait pas attention, on achète.
Quand le fonds de monnaie sera plat, c'est qu'il faudra rentrer.
Et les quelques 300 commerçants qui craignaient que cette année soit un peu ratés sont pour l'instant optimistes.
J'ai l'impression que les gens se lâchent parce qu'en fait, l'an dernier, il n'y a pas eu de marché. Du coup, cette année, c'est pas qu'ils dépensent sans compter, mais ils se font plaisir.
Donc on a, on va dire, des paniers moyens un peu plus élevés.
et les gens sont beaucoup plus contents d'acheter.
Avec beaucoup plus de sourires qu'à l'accoutumée.
Bon, on n'est pas encore à la fin. Hein.
Puisqu'il va falloir attendre le 26 décembre, date de fermeture du marché de Noël pour vraiment faire les comptes, et pour voir si malgré le Covid, les 2 millions de visiteurs habituels auront été au rendez-vous. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et déjà, un bon indice sur la fréquentation, Julien, puisque les photos du marché Noël de Strasbourg sont les plus partagées sur Instagram, juste derrière Vienne et Budapest. Ce classement européen a été publié par un journal anglais ce week-end.
Vive Strasbourg.
Voilà, et c'est magnifique.
Le et vive marché. Romain Hockey pour ce journal. Merci beaucoup,
au moins,
Romain.
Merci.
Il est 6h06 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et un cri ce matin à la une.
Oui, c'est celui de Max Verstappen, le nouveau champion du monde de Formule 1, vainqueur d'un Grand Prix d'Abu Dhabi complètement dingue hier. Le Néerlandais a passé la totalité de la course derrière son rival Lewis Hamilton avant de le dépasser dans le dernier tour. Alors bien sûr, il y a eu des polémiques. Mercedes, l'écurie de Hamilton, a d'ailleurs déposé une réclamation. Mais Verstappen reste un formidable champion du monde, selon l'ancien pilote Jacques Lafitte.
Quand même un championnat formidable et un très beau champion de 24 ans. Enfin, moi, personnellement, j'étais très content de voir un jeune garçon se bat comme un chien contre des gens beaucoup plus, oui, avec beaucoup plus d'expérience. Il a démontré qu'à 20 ans, 19 ans, on pouvait se battre avec des gens comme ça. Moi, je trouve qu'il a amené beaucoup de choses à la Formule 1, ce jeune homme.
C'est le premier titre pour Max Verstappen quand Hamilton reste bloqué à 7. Le record qu'il codétient avec Michael Schumacher n'est donc pas encore tombé.
On passe au foot, Martin, avec un petit PSG, mais un grand Mbappé.
Oui, Paris a battu Monaco 2-0 grâce à un doublé de son numéro 7. Mais dans le jeu, ce fut encore laborieux et les Monégasques auraient pu s'imposer. Mais leur entraîneur Niko Kovac regrette le manque de réussite de ses joueurs.
Mais quand vous jouez contre le PSG et que vous ne marquez pas, il devient difficile d'espérer gagner ici au Parc des Princes. Donc, on rentre à Monaco avec cette défaite 2-0 et la sensation que l'on pouvait faire beaucoup mieux aujourd'hui.
Au classement, Paris caracole toujours en tête devant Marseille, vainqueur de Strasbourg un peu plus tôt dans la journée, et Rennes qui est tombé à Nice. Dans la zone rouge, on retrouve Metz, Lorient et Saint-Etienne. Aujourd'hui, place au tirage au sort de la Ligue des Champions. Lille et Paris vont être fixés sur leur adversaire en huitième de finale.
Un mot de sport d'hiver.
Oui, avec deux belles victoires en Coupe du Monde hier, Clément Noël a écrasé le slalom de Val d'Isère et la championne olympique Perrine Laffont remporte sa première victoire de la saison en ski de boss. De bon augure à moins de 2 mois des JO.
Pour terminer, en bref, Martin.
Du rugby et la victoire de La Rochelle contre Glasgow en Coupe d'Europe. Et puis ce soir, choc au sommet au Mondial féminin de hand. Les Bleus affrontent la Russie pour un remake de la dernière finale olympique.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant. La fin du monopole de la SNCF dans le transport de passagers, c'est pour cette semaine. La concurrence arrive à vitesse TGV. On en parle dans 2 minutes avec Michel Savy, grand spécialiste des transports. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1 et votre invité Julien est professeur émérite à l'école des Ponts et Chaussées, directeur de l'Observatoire des politiques et stratégies de transport en Europe.
Bonjour Michel Savy.
Bonjour.
Merci d'être en direct en ligne avec nous. C'est la fin pour la SNCF de 83 ans de monopole dans le transport de passagers intérieurs. À partir de samedi, la compagnie italienne Trenitalia va lancer ses premiers trains grande vitesse en France. 2 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon pour commencer. Est-ce que c'est un tournant majeur dans l'histoire du rail français ?
C'est un tournant important. C'est pas tout à fait la première fois qu'il y a de la concurrence, puisqu'il y a déjà une autre compagnie italienne, Tello, qui fait des trains entre Marseille et Milan, mais ce ne sont pas des TGV, donc dans le champ nouveau des TGV, c'est la première fois qu'il y a effectivement une concurrence sur les rails français.
Est-ce que c'était attendu ? Est-ce que la SNCF a anticipé l'arrivée de cette concurrence ?
Alors je crois que c'est attendu de façon, dirais-je. Sous l'angle législatif, c'est l'application d'une décision qui a été prise il y a 30 ans, et reconduite régulièrement depuis, mais il y a 30 ans, sous la forme d'une directive, dans le jargon, la célèbre directive 91-440, c'est son numéro européen, qui fixait le principe d'une réforme ferroviaire qui s'applique peu à peu dans l'ensemble des pays de l'Union, avec deux idées, séparer la gestion des rails de l'infrastructure et la gestion des trains. Et ceci pour permettre, dans une deuxième étape, l'introduction d'une certaine concurrence sur les rails avec plusieurs entreprises ferroviaires circulant parfois de façon concurrente sur le réseau. Donc c'était attendu, et la loi de ferroviaire de 2018 consistait notamment à organiser l'application de cette décision européenne, à laquelle la France, bien sûr, a contribué à Bruxelles. Puis deuxièmement, commercialement, la SNCF savait bien que la concurrence était imminente, et je crois qu'elle a beaucoup développé son offre de TGV notamment, pour saturer le marché en quelque sorte et ne pas être prise au dépourvu et laisser aussi peu d'espace que possible.
Malgré tout, ça doit en inquiéter plus d'un à la SNCF parce qu'on parle de la ligne Paris-Lyon qui n'est pas une ligne comme les autres. C'est la ligne la plus fréquentée, c'est aussi la plus rentable.
Bien sûr, quand on veut attaquer un marché, on commence d'abord par le segment de marché qui est le plus intéressant, le plus rentable. Mais je dirais que la SNCF le sait très bien, puisqu'elle fait aujourd'hui circuler des trains SNCF sur le réseau espagnol à grande vitesse. Et par quelle ligne est-ce que la SNCF a commencé ? Par la ligne Madrid-Barcelone, c'est-à-dire la première ligne du réseau espagnol. Donc effectivement, la SNCF n'est pas surprise.
Alors à 9h ce matin, Trenitalia va ouvrir pour la première fois en France ses réservations. La compagnie promet un Paris-Lyon à partir de 23 €. Alors j'ai vérifié, c'est sensiblement moins cher que le premier prix pour un TGV Inouï, TGV classique, soit 31 €. Mais c'est plus cher que les billets Ouigo qui eux commencent à 13 €. Donc c'est ça le positionnement de la Trenitalia, c'est-à-dire entre l'offre classique, souvent jugée trop chère par les Français, et le low cost ?
Non, je ne crois pas. Tout comme la SNCF a diversifié son offre, vous l'avez dit, entre le Ouigo, l'Inouï, la première classe, la deuxième classe, et même une première classe premium plus ou moins en SNCF, Trenitalia aura 4 classes, je crois, et a déjà en Italie, où ils font marcher des TGV depuis des années.
Et ils sont très forts tarifs sur la classe business, 139 € le billet contre 142 pour la SNCF, le tout avec un repas compris. C'est quand même mieux.
Voilà. Oui, oh, mais tout ça va changer. C'est de la guerre commerciale qui va s'affiner. Ils vont essayer, ils vont réussir, se tromper, ajuster l'offre. De la même manière, en première premium SNCF, ils disent qu'ils vous aurez une collation à table, à votre place, un peu comme vous l'avez en première classe quand vous allez à Bruxelles, sur le Thalys d'ailleurs.
Donc il va y avoir des mois d'ajustement.
Je pense, oui, une petite guerre commerciale et on va s'observer, on va ajuster les tarifs et voilà. Mais alors, il y aura peut-être le prix de base qui est peut-être symboliquement important, mais il y aura toute une gamme, d'autant que vous le savez bien, selon qu'on prend le train un jour ou un autre, le prix n'est pas le même.
Oui, si on appelle un jour creux ou un jour de pointe, le yield management, voilà, cher aux compagnies aériennes.
Voilà, et aux compagnies ferroviaires désormais.
Comment expliquez-vous que la concurrence ait mis autant de temps à arriver chez nous ? Parce que c'est déjà une réalité depuis 25 ans en Allemagne, par exemple, et dans une dizaine d'autres pays européens ?
Bon, d'abord, on ne peut pas dire que la SNCF était franchement favorable à faciliter ça, ni les gouvernements successifs. Mais comme je l'ai dit, la SNCF, elle s'est fait surprendre il y a déjà 15 ans.
Avec le fret.
Avec l'ouverture du fret, oui. Et là, l'ouverture était très mal préparée. Le résultat, c'est qu'en très peu de temps, la SNCF a perdu 40% du marché. Donc là, quand on est averti, cette fois-ci, ils ont préparé l'ouverture. Donc d'une part, pour un nouvel entrant, le ticket d'entrée et le risque commercial est assez grand. Deuxièmement, le Covid est venu aussi ralentir les choses.
Oui.
On aurait pu très bien avoir une ouverture plus tôt, mais quand la SNCF elle-même a perdu pendant un certain moment de l'année 40 ou 50%, voire davantage de son trafic, ce n'était pas le bon moment pour lancer une nouvelle offre commerciale.
Merci beaucoup Michel Savy de nous avoir éclairé sur ce sujet, la fin du monopole de la SNCF dans le transport de passagers en France et en France intérieure. Très bonne journée à vous et à très bientôt sur Europe 1.
Bonne journée, au revoir.
Vous restez avec nous, la partition du groupe d'Eric Clapton, Derek and the Dominos, bientôt.
On conclut avec la musique et votre partition, Omblin. Un groupe à part dans l'histoire du rock'n'roll ce matin, un groupe à la carrière éclair, un seul album a fait entrer Derek and the Dominos dans la légende.
Quel album, Julien, un chef-d'œuvre de blues et de rock. Et quel groupe, emmené par l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Eric Clapton. Have you ever loved a woman so much you tremble in pain?
La courte histoire de Derek and the Dominos commence simplement par une rencontre.
Oui, entre Eric Clapton et Bobby Redlock, un jeune musicien du studio du label Stax à Memphis, un label d'Otis Redding entre autres. Dans la grande maison d'Eric Clapton à Londres, ils passent leur journée à jouer ensemble, à reprendre des grands classiques blues et à écrire des chansons. C'est lorsqu'ils sont invités à participer à l'enregistrement de l'ex-Beatles George Harrison que le projet Derek and the Dominos prend forme. Once I live the
life of a millionaire. L'album Layla and Other Assorted Love Songs est enregistré à la fin de l'été 1970 à Miami.
Un album sur l'amour, comme le précise le titre, sur les femmes, sur une femme en particulier. L'histoire est connue, la chanson Layla, écrite par Eric Clapton, est adressée à Patty Boyd, l'épouse de son ami George Harrison, et qui deviendra ensuite la sienne. Pour la pochette du disque, Eric Clapton reproduit un tableau du peintre franco-danois Emil Theodor Frandsen, baptisé La jeune fille au bouquet. Le portrait est une femme idéalisée.
Ce tableau, La jeune fille au bouquet, c'est l'un des fils du peintre récemment décédé qui l'offre à Eric Clapton.
Et dans son livre Rock'n'Roll Justice, Fabrice Epstein raconte que les héritiers n'ont jamais trouvé à redire à l'exploitation du travail de leur père. Jusqu'à la sortie d'un coffret collector célébrant le 40e anniversaire de l'album, accompagné de produits dérivés. Nous sommes en 2010 et la fille aînée du peintre attaque Eric Clapton et la maison de disques Polydor pour avoir, entre autres, selon elle, dénaturé l'œuvre de Frandsen.
Une bataille judiciaire s'amorce et elle va durer 10 ans.
Et elle donnera finalement raison aux musiciens, les réclamations de l'héritière étant alors considérées par les juges français comme prescrites. La version originale qui donne son nom à l'unique album du groupe d'Eric Clapton, Derek and the Dominos, sorti en 1970 avec sa pochette mythique qui a permis au guitariste de se frotter à la justice française. Le tableau La jeune fille au bouquet est aujourd'hui possédé par l'ex-femme de Clapton, Patty Boyd. Et cette histoire et bien d'autres sont racontées par Fabrice Epstein dans son livre Rock'n'Roll Justice, paru aux éditions La Manufacture de Livres.
Merci beaucoup, Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec un autre soliste, Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée sur Europe 1.
Et on revient dès demain, 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin. Avez-vous passé un bon week-end ?
Excellent.